Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bouger les lignes, le nouveau podcast d'Impact for the Future. Quand le monde change, le regard que nous portons sur ce dernier en mouvement doit lui aussi évoluer. Aujourd'hui, on vous propose un autre regard, un pas de côté, dans Bouger les lignes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Santiago. Isabelle, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
Je rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices que vous êtes députée socialiste. Isabelle, vous avez récemment porté une loi visant à mieux protéger, accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Cette loi, on le rappelle, a été adoptée le 18 mars dernier. Elle pose le principe notamment du retrait total de l'autorité parentale en cas d'inceste ou de crime. Rappelons quelques chiffres édifiants. En 2019, les derniers chiffres disponibles en la matière, 72,6% des mères d'enfants mineurs obtenant une ordonnance de protection ont été contraintes d'exercer leur autorité parentale avec le conjoint qui les a vraisemblablement violentées et mises en danger, elles et leurs enfants. Alors, ce ne sont pas les seules mesures portées. Donc, Isabelle, peut-être revenir pour nos auditeurs, nos auditrices, sur ce principe qui était important, mais aussi les autres qui sont énoncés dans ce texte. Et concrètement, qu'est-ce que cette loi va vraiment changer pour les enfants ?
Tout d'abord, c'est un texte qui change de paradigme dans la version qu'on pourrait en avoir de ce qu'on appelle le code pénal. Et donc, à un moment donné, la question, c'était de savoir qui on protège. Donc, inverser la manière de penser en droit, et particulièrement au pénal, ça, c'est extrêmement difficile en France, puisqu'il y a la présomption d'innocence. Et c'est évidemment un cadre légal sur lequel on ne veut pas bouger. Pour autant, une réalité factuelle, c'est que des enfants pouvaient se trouver à être, en attendant un procès, on va dire, concernant de l'inceste, par exemple. Si on porte plainte, il y a donc une enquête. Ça permet de protéger aujourd'hui ce texte avec les enfants qui sont, une fois que la personne est mise en examen ou que la procédure est lancée, eh bien là, on a capacité à pouvoir protéger l'enfant et qu'il reste avec le parent protecteur jusqu'au procès. Les anciens textes permettaient de le faire, mais peu. Déjà, ils étaient peu engageants de la part du juge. Et deuxièmement, c'était une durée maximale de 6 mois. Aujourd'hui, on sait qu'entre une mise en examen et un procès, ça peut durer jusqu'à 3 ans. Et donc, avant, avec l'ancien texte, eh bien, les enfants devaient être remis pour les droits de visite et d'hébergement à son bourreau. En tout cas, supposé, mais c'est très rare que ce ne soit pas le cas. Donc, du coup, on s'est dit, je te crois, je te protège, il faut changer tout ça. Et donc, le texte concerne la procédure avant le procès pour protéger l'enfant. Et quand il y a le procès avec une condamnation, eh bien, l'enfant, là, on demande le retrait automatique. Alors, le retrait automatique, ce n'était donc pas quelque chose qui était constitutionnel. Il a fallu l'écrire différemment. Donc, on demande au juge de le faire. Et s'il ne le fait pas, au niveau du retrait de l'autorité parentale, eh bien, il doit le justifier. Et ça, ça respecte le droit constitutionnel, mais aussi la sécurité de l'enfant. C'est-à-dire que nous, on cherchait à obtenir dans ce texte le retrait, la protection durant la procédure et le retrait de l'autorité parentale une fois qu'il y a la condamnation. Voilà l'objet du texte.
Alors, vous l'avez évoqué et c'est important, c'est une véritable avancée, cette loi pour protéger les enfants, les victimes. Vous estimez qu'il y a quand même des mesures qui sont peut-être incomplètes. Oui. Vous auriez voulu aller plus loin. À quel niveau et pourquoi ?
Alors, en fait, quand on fait un texte et qu'on est parlementaire comme moi, un groupe d'opposition, donc du coup, les groupes d'opposition ont ce qu'on appelle une journée par an pour déposer des textes de loi. C'est pas beaucoup. Et puis, nous sommes plusieurs parlementaires au sein du groupe. Alors, donc, du coup, évidemment, tout le monde voudrait déposer son texte de loi. Donc, on a, nous, une règle interne, c'est qu'on fait des petits textes courts de 2 articles pour qu'on puisse passer le maximum de textes et de propositions de loi en séance à l'Assemblée. On a, quand on dit une journée de débat, c'est de 9h à minuit. On peut, en général, avec les amendements et les discussions autour d'un texte, eh bien, 5 maximum. Donc, ce texte, il n'avait que deux articles à la base. Et du coup, évidemment, on a été sur l'essentiel, la protection, la prévention dans la protection et ensuite dans le retrait, dans la condamnation, comme je l'ai pu l'expliquer tout à l'heure. Il ne permettait pas d'avoir une vision globale comme pourrait présenter un texte au niveau de la majorité ou du gouvernement. Donc ce texte, il a une dimension où il fait avancer la France, y compris aujourd'hui, on veut faire partie des pays européens les plus protecteurs pour les enfants. Mais en effet, il y a toute la question autour du dépôt de plainte et de la sécurité de l'enfant. Donc là, il y a un décret qui existe, mais il faut qu'on vérifie qu'il soit bien appliqué et qu'il protège l'enfant en attendant cette procédure de mise en examen. Et là, le texte, le mien, intervient. Il y a encore quand même un sas sur lequel on devrait mieux protéger les enfants. Il y a les recommandations de la CIVIS qui sont au nombre important de 82. Donc maintenant, un petit peu moins puisque mon texte a pris quelques mesures, mais pour autant, il nous reste encore un champ large. Et surtout, il faut avoir une vision globale de l'enfance. Et je crois que quand on veut faire la protection des enfants, eh bien, il faut que l'audition se passe bien. Donc l'audition, ça doit être au sein des UAPED ou les salles Mélanie, mais on doit absolument avoir une vision transversale de la parole de l'enfant ou de sa gestuelle s'il est tout petit. Et donc, il y a cette capacité à penser plutôt une vision transversale, globale, de la prise en charge de l'enfant dans sa sécurité et que les textes de loi s'adaptent du dépôt de la plainte jusqu'à la condamnation. Aujourd'hui, le texte, il est très très bien, j'en suis ravie, mais il faut poursuivre pour avoir ce plan global et cette sécurité maximum pour les enfants et le parent protecteur.
Rien n'est jamais acquis, non. Et donc le combat continue pour protéger ces enfants qui ont besoin des adultes, qui ont besoin de vous et de nous, puisque chacun de nous peut être acteur de leur protection. On le rappelle, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. On estime aujourd'hui à 160 000 le nombre d'enfants victimes de violences sexuelles en France. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui pour, j'ai envie de dire, éradiquer l'entièreté de ces chiffres, à tout le moins pouvoir les réduire ? Comment, selon vous, pourrait-on arriver à bout de ce fléau ? Vous êtes une élue de terrain, Isabelle Santiago. Vous êtes engagée depuis plusieurs dizaines d'années à leur côté, avec notamment les acteurs de l'ombre qui oui. agissent auprès des enfants. Que voyez-vous de cette situation du terrain, ce qui vous est remonté de ces acteurs ? Que pourrait-on faire pour faire évoluer la situation au-delà du droit ?
Au-delà du droit, il faudrait une dimension un peu d'un plan global, comme je l'ai dit, autour de l'enfance. Tout d'abord, saluer tous les professionnels, les bénévoles dans les associations qui participent justement à accompagner ces enfants ou ces femmes dans des situations assez dramatiques. Après, la question des violences intrafamiliales, c'est un sujet sociétal qui est majeur. Il faudrait qu'il soit porté, évidemment, l'exemple typique, c'est la CIVIS. C'est vrai qu'Edouard Durand avait cette, je l'avais dit à l'époque, c'est une pépite, une richesse pour la France d'avoir quelqu'un qui était président de la CIVIS, qui pouvait parler à la société avec un langage clair, apaisant sur des sujets qui ne le sont pas et qui sont des sujets difficiles, compréhensibles de la part de tous. Eh bien, là, c'est tombé en déshérence. C'est des sujets sur lesquels il ne faut rien lâcher. Donc, du coup, j'en profite. Je souhaite le retour de personnalités comme Édouard, mais aussi les acteurs qui, en ce moment, se mobilisent aussi sur ces sujets-là. Il faut cette vision, il faut une parole nationale qui parle aux personnes, aux populations. Il faut une vigilance majeure de la part de tous, une éducation qui rappelle à chacun que si on est informé de quelque chose, article 40, on doit le signaler, et que l'espace de la vie familiale, ou en tout cas quand on parle de sécurité, pour grandir, un enfant a besoin d'une sécurité intérieure dans ses besoins fondamentaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas assez loin dans cette protection que l'on doit aux enfants pour qu'ils puissent bien grandir. On a les mécanismes du psychotrauma dont on ne mesure pas le coût pour la société de ne pas les protéger parce que ça a un impact sur leur devenir. Voilà, donc du coup, je pense plutôt à un plan global, une vision transversale. Ça concerne beaucoup de sujets. Et puis surtout, le secteur du médico-social doit être renforcé. C'est pour ça que je parle d'une vision transversale et globale, parce qu'il faut intervenir sur de très nombreux sujets pour qu'on puisse éradiquer, je ne sais pas, mais en tout cas, accompagner de manière très très forte et baisser ces chiffres scandaleux que nous avons en France.
Alors, le lendemain de l'adoption de votre loi par le Sénat, vous avez souhaité lancer une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. En janvier 2024, notamment, et vous en avez parlé, une adolescente de 15 ans a été retrouvée pendue dans un hôtel du Puy de Dôme où elle avait été placée par les services de la protection de l'enfance. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Isabelle, sur la situation qui est liée justement à l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui en France et qu'attendez-vous de cette commission ?
Tout d'abord, une commission d'enquête, c'est un pouvoir que l'on a en tant que parlementaire qui permet aussi d'aller un peu plus loin dans les recherches que l'on voudrait montrer, c'est-à-dire cette capacité à démontrer ce que l'on sait aujourd'hui, puisque du coup ça fait l'objet de l'actualité, c'est que cette protection de l'enfance est à bout de souffle. Et elle l'est à travers les personnels qui en font part. Toutes les grandes organisations autour de la protection de l'enfance le disent, l'écrivent, mais moi je pense surtout aux enfants. Parce que aujourd'hui, que ce soit la petite Lily, ou que ce soit un nombre d'enfants sur lequel je mets des visages et des noms et des prénoms, pour avoir été vice-présidente moi-même pendant 12 ans de la protection de l'enfance en Val-de-Marne. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'autre sujet, puisque nous parlions des questions d'inceste. En France, les enfants, quand ils ne sont pas repérés, ils sont pour certains en grande souffrance. Ces psychotraumas sont graves au moment où ils arrivent en protection de l'enfance parce que à un moment donné, l'école ou un autre acteur a pu préciser la situation dans laquelle ils étaient. Peu importe dans quel cadre ils rentrent, ce sont toujours des enfants qui ont été soit avec des carences éducatives graves, soit des enfants avec des maltraitances graves. Et je crois que la société n'est même pas prête à entendre l'innommable que j'ai pu connaître. Et aujourd'hui, savoir qu'on est sur un point d'exergue où tout le monde est à bout de souffle, dont les professionnels qui doivent les accompagner, là, c'est une alerte maximum. Parce que ces enfants avec des psychotraumas graves doivent être accompagnés de bonne manière. Si les adultes qui les accompagnent dans leur profession, et en plus, on peut leur tirer un sacré coup de chapeau parce que c'est des conditions de petits salaires, des gens très engagés, et actuellement, il y a une pénurie de professionnels. Donc en plus, les enfants, ils ont plutôt dans les foyers où il y a une baisse aussi de la démographie et puis plusieurs difficultés dans le secteur du médico-social pour recruter. Donc tout ça me fait toujours penser que sur les enfants, la priorité, c'est de les accompagner. Pour la petite Lily, je ne connais pas son histoire, mais elle est représentative de ce qu'on connaît. C'est-à-dire que les jeunes en psychotrauma, quand on ne les prend pas en charge, ils vont mal à l'adolescence, très mal. Et même pour les acteurs professionnels qui les accompagnent, si nous n'avons pas l'État à nos côtés, l'État c'est la santé, c'est l'éducation, c'est les décisions de justice. En fait, l'enfant, il n'est pas simplement confié à un département qui est chef de file d'une politique publique, il est surtout un acteur autour de l'enfant dans tous les domaines qui vont le concerner. Et aujourd'hui, à travers cette commission d'enquête, j'aimerais montrer que l'État n'est plus au rendez-vous à la question du handicap, du psychotrauma, de la prise en charge du soin et de ces enfants qui, pour être bien accompagnés, doivent bénéficier de tous ces dispositifs. Seul un éducateur avec un enfant à psychotrauma fort ou porteur de handicap avec des troubles autistiques ou du TSA, du trouble du développement, ne peut pas faire seul quelque chose qui nécessite un ensemble pluridisciplinaire de métiers. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est comment on fait demain pour que l'État soit au rendez-vous dans tous les domaines qui accompagneront les enfants. C'est de dire priorité à ces enfants, en fait, et à tous les enfants, mais les plus fragiles, les plus vulnérables, c'est de notre responsabilité de ne pas les laisser sur le bord du chemin. Et ces exemples de jeunes qui vont très très mal jusqu'aux tentatives de suicide Aujourd'hui, on en a beaucoup dans nos secteurs hospitaliers. On manque de place pour les accompagner. Et quand ils sont en protection de l'enfance, ils ont des doubles vulnérabilités, encore plus. Donc, ça peut amener à des drames terribles.
Vous êtes une élue de terrain, c'est aussi de côtoyer tous ces acteurs avec de formidables initiatives que vous avez pu côtoyer, qui font aussi qu'on arrive à maintenir un tel engagement sur des sujets, et vous l'avez rappelé, qui sont parfois très difficiles dans le quotidien, avec derrière cela des vies, des enfants, des visages et des prénoms. Est-ce que vous avez quelques initiatives que vous pourriez partager avec nos auditeurs, nos auditrices ?
Tout d'abord, j'invite déjà tout le monde et les auditeurs. Quand on est engagé, on a aussi cette capacité chacun à pouvoir donner un peu de son temps. Donc j'invite déjà tous les gens à se dire, est-ce que je ne pourrais pas être un parrain dans le cadre de la protection de l'enfance ? Aujourd'hui, parrain par mille accompagne des enfants de manière sécure, puisque du coup l'organisation accompagne les familles qui pourraient en faire la demande. C'est pas toc toc devant la porte, je veux prendre un enfant. Bien sûr qu'un enfant en protection de l'enfance est protégé, donc du coup, mais il y a de grandes organisations qui permettent de donner du temps à un enfant à travers le parrainage. Ça peut être ouvrir à la culture, au sport ou un repas le dimanche. Le parrainage sur le long terme, dans l'accompagnement d'un enfant qui lui vit en protection de l'enfance, je pense que c'est déjà une belle manière de militance au sens noble du terme, c'est-à-dire de donner du temps à un enfant qui va grandir et qui n'a pas le bénéfice d'avoir cette chaleur familiale, ou en tout cas la chaleur familiale sécure, bien sûr. Et donc ça, c'est des exemples de choses de bonnes pratiques, mais après, dans les bonnes pratiques, moi j'ai beaucoup travaillé avec le Québec, ils ne sont pas bons sur tout, mais je leur dis que sur cette question de l'approche autour de la protection de l'enfance et surtout du handicap, parce qu'il faut rappeler qu'une grande partie des enfants en protection de l'enfance, compte tenu de leur psychotrauma, sont des enfants qui ont des doubles vulnérabilités. Ça nécessite de les accompagner avec les bonnes postures. Et dans les exemples que j'avais pu mettre en place, moi, à l'époque, quand j'étais revenue du Québec, j'avais vu des salles Slozen qui existent dans les crèches. Ça parlera peut-être plus à vos éditeurs. En protection de l'enfance, ça n'existait pas. Donc, on a mis ce genre de dispositif pour les jeunes. Et je vous rassure, ils se sont tout de suite emparés de ce genre de lieu très sécure, très cocoon, qui leur permettait de se poser et parfois de dormir pendant 3-4 heures. Non pas parce que c'est des ados et qu'ils avaient envie de dormir, mais juste parce qu'en fait, c'était très sécurisant, apaisant pour eux. Et ça participe aussi, de manière psychologique, à bien accompagner les jeunes. Mais dans ces exemples-là, j'avais aussi mis en place la table des chefs, c'est-à-dire les plus grands chefs de cuisine de nos grands restaurants parisiens, jusqu'à l'Élysée d'ailleurs, et ça vient du Canada aussi, qui avait été inventé par les grands chefs au Québec. Eh bien, la transposition existe en France, et là aussi c'était merveilleux. On a pu partager un repas avec des jeunes et la brigade d'un grand chef cuisinier avec son équipe à faire le repas, à évidemment éplucher tout ce qu'il fallait sous sa consigne, et ensuite partager un repas le soir avec des jeunes. Et chose très étonnante, c'est que les jeunes, à la fin du repas, m'ont dit pour la plupart que c'est la première fois de leur vie qu'ils faisaient un repas du début à la fin à table et qu'ils n'avaient jamais participé à un repas de famille. Et ça vous montre en fait que on peut être un jeune de 11 ans, on peut être un jeune de 16 ans et n'avoir jamais fait un repas à table avec une discussion sympa autour de la table, puisque ce grand chef cuisinier a pu expliquer son parcours, lui-même étant en ayant démarré au plus bas de la cuisine, et donc expliquer la rigueur, le travail, la réussite qu'il a pu avoir. Et tout ça, ce sont des bonnes pratiques. En fait, beaucoup de gens donnent du temps de manière très... dans cette empathie, cette résilience qui est nécessaire. Et je crois que quand on a la chance de rencontrer ce genre de bonnes pratiques, de bons exemples, on se dit qu'on peut encore faire plein d'autres choses. Alors là, pour ne pas être trop longue, mais j'aurai plein d'exemples à vous donner de choses que l'on peut faire et qui peuvent, à un moment donné, être ce qu'on appelle des belles rencontres. Et parfois, pour des jeunes, c'est très important pour les orienter sur un autre chemin.
Et des rencontres qui, effectivement, parfois peuvent même changer complètement une vie. Isabelle Santiago, si vous aviez un dernier mot à adresser à celles et ceux qui nous écoutent, quel serait-il ?
Si des jeunes se considèrent victimes, je leur dirais de parler. Je te crois, je te protège. Je crois qu'il est essentiel de ne pas être dans une situation qui peut être très très grave, y compris dans son développement personnel. Donc il faut que ces jeunes sachent que leur vie d'adulte nécessite qu'ils puissent être protégés, leur future vie d'adulte. Il faut qu'ils soient protégés dès qu'ils savent qu'ils sont en danger ou qu'ils le mesurent, parce que des fois, au départ, ils ne le savent pas. Donc la première chose, c'est de leur adresser ma vision en leur disant, surtout, ne restez pas comme ça, allez le signaler à un ami, à de la famille, à la police, à la gendarmerie, suivant où on est, mais en tout cas, le 119, bien sûr, tous les numéros qui permettent à un enfant de dire que ça ne va pas, mais je crois qu'il est nécessaire d'être accompagné. Et puis, pour les auditeurs qui nous écoutent ou qui connaissent, ben justement, ne pas fermer les yeux, jamais, ouvrir nos yeux, nos oreilles, pour ne pas laisser passer des choses qui pourraient être de grande fragilité pour les personnes qui sont supposées être donc victimes. Et puis pour ceux qui ont juste envie de s'engager, eh bien je crois que l'enfance, à travers le grand réseau associatif, dans la diversité de ce que nous pouvons tous faire, et je crois que chacun, on a une petite capacité à faire, à donner un peu de temps, et je pense que c'est une très belle cause, très noble, et qui peut nous engager sur de nombreux sujets assez transversaux, très sociétaux, et en fait, on en tire quelque chose qui est de l'ordre du bénéfice bon pour soi et pour l'autre. Et je crois que c'est très grisant, en fait, de pouvoir donner un peu de temps et d'être en capacité de se dire qu'on a été utile.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Santiago, et on l'a compris, un sujet évidemment qui peut être parfois difficile, douloureux, mais où on voit que les choses bougent. Alors évidemment, il reste à faire, mais il y a beaucoup de très belles initiatives. Vous en avez partagé quelques-unes avec nous, et on voit effectivement beaucoup d'acteurs engagés auprès de ces enfants pour leur permettre effectivement de pouvoir grandir, se construire dans un environnement qui soit plus sûr, plus sain, qui leur permette d'adresser une vie d'adulte dans les meilleures conditions. Vous le dites très souvent, Isabelle Santiago, le temps de l'enfant n'est pas celui de l'adulte. Il y a donc nécessité d'agir, de continuer à agir ensemble et tout de suite pour nos enfants, les adultes de demain. Merci beaucoup Isabelle d'avoir partagé avec nous votre engagement du quotidien au cœur de l'Assemblée nationale pour la protection de nos enfants, les adultes de demain.
Merci.
J'espère que cet épisode de Bouger les lignes vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous partager également les sujets qui vous intéressent. On se retrouve prochainement sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute pour partir à la rencontre d'un autre acteur engagé et passionnant. N'oubliez pas, c'est collectivement que nous ferons bouger les lignes, et vous faites partie de ce collectif. Très belle journée à toutes et à tous.